Là, c'était un beau jugement. Et ça, en ces temps très anciens, c'était ce qu'on demandait à un roi, de bien juger, de bien s'occuper de ses sujets. Et s'il ne le faisait pas, il risquait d'être puni par la justice magique. En ces temps très anciens, très loin d'ici, vivait un roi qui s'appelait Freudi. Ses ancêtres avaient bien géré son royaume. Et quand Freudi montait sur les créneaux de sa forteresse, il pouvait voir à l'infini la mer scintiller et des pêcheurs tirer leurs filets pleins de harengs de leurs barques. Dans les prés, il y avait de gras troupeaux. Et près des femmes, des enfants aux yeux bleus qui s'amusaient, sans crainte d'une armée qui risquait de venir, de prendre les enfants et de les vendre comme esclaves sur des marchés lointains. Bref, en ces temps troublés, un roi heureux, en paix dans son royaume. Le seul ennemi s'appelait Missinger. Pourquoi était-il ennemi ? Personne n'aurait été capable de le dire. Il était loin, dans une petite île, pauvre et bien incapable d'armer une flotte ou une guerre, ou une armée. Freudi avait tout pour être heureux, mais il se rongeait. Dans ses caves, il avait un trésor inestimable, qui ne lui servait à rien, d'aucun profit. Il avait deux pierres énormes, deux meules d'un moulin magique qui pouvait moudre tout ce que désirait son propriétaire. Comment était-elle venue là? Nul n'aurait su le dire. Il paraît que cette pierre venait d'un volcan dont les portes ouvraient sur l'enfer. Comment était-elle venue? Offrande, butin. Sans doute, elles étaient là, et personne, ni le roi, ni les hommes les plus forts du royaume, personne n'avait pu les bouger. Or, un jour, le roi est invité chez un lointain cousin en Suède, de l'autre côté de la mer. Il monte sur un de ses bateaux à proue de lion. Il va baffrer, s'enivrer avec son cousin. Et au milieu du repas, par distraction, des guerriers amènent le butin d'une razzia prise aux Vikings, pas loin. Et parmi les prisonniers, il y a deux femmes, deux sœurs, deux géantes. Et Freudi les regarde fascinées. Elles ont le cou épais, des mains larges, des muscles, des pieds énormes. Elles portent le costume des esclaves, des tuniques de laine écrue, les cheveux coupés courts et hirsutes. Freudi ne voit que leurs muscles. Et il est tellement pétrifié à les regarder que le cousin se méprend sur ses goûts. Il a bien bu, il est d'humeur joyeuse. Il offre les deux géantes. Et Freudi peut rentrer dans son royaume avec les deux filles. Et aussitôt rentrer dans son royaume, sans même leur permettre de se reposer, sans même leur donner la moindre nourriture. Il les amène lui-même dans les souterrains de son château, devant les meules. Et il ordonne qu'elles ébranlent les meules, qu'elles mettent en marche le moulin. Alors elles se regardent, elles se penchent, elles s'arc-boutent et elles essayent de déplacer les pierres. Et après de grands efforts, en donnant de la voix, de l'élan, elles entendent les pierres grincer. Elles sentent les pierres qui remuent. Elles ébranlent le moulin, elles le mettent en marche. Et Freddy peut exprimer son premier souhait. Et chaque jour, il veut entendre le grincement des meules, il veut entendre le moulin en marche. Et chaque jour, il ne pense qu'à une chose, avoir un souhait. Santé, bonne récolte, beaux enfants, beau temps, pluie s'il y a besoin. Et de l'or, de l'or, de l'or. Et chaque jour, elles doivent tourner ce moulin, elles doivent. Seulement, le roi ne s'occupe plus de son royaume. Le roi ne pense chaque matin qu'au souhait qu'il va exprimer. Et toujours plus d'or, plus de richesses. Et les filles, elles ont beau être géantes, elles ont beau être surhumaines. Elles sont mortelles, elles se fatiguent. Leur nuque est raide, leurs épaules fatiguées, leur dos exténué, leurs pieds en sang, leurs mains écorchées. Un jour, elles demandent, elles osent demander à Freddy un peu de repos. La réponse claque comme un fouet. Elles sont esclaves, qu'elles obéissent. Qu'elles tournent ce moulin. Il veut l'entendre grincer nuit et jour. Elle continue, mais elle se fatigue davantage. Elle demande une seconde fois. Elles pourront se reposer quand les oiseaux cesseront de chanter. Mais c'est l'été polaire. Les oiseaux chantent nuit et jour. Ils ne songent pas à se reposer. Alors elles sont esclaves, soumises. Elles continuent à tourner le moulin. Mais maintenant, elles se regardent, des flammes mauvaises s'allument dans leurs yeux et elles chantent des paroles que Freddy n'entend pas, ne comprennent pas. Il ne sait pas qui elles sont, il ne sait pas qu'elles sont filles des géants de la montagne, que ces meules, elles les connaissent, que ces meules, elles les ont déjà tournées. Et c'est elles maintenant qui expriment des souhaits. Elles souhaitent la maladie, les calamités, la peste. Dans le royaume, tout à coup, des fermes s'enflamment sans raison, des hommes s'agressent sans raison. La mort court le pays. Et maintenant, des meules sortent des flammes, sortent des armes, sortent des guerriers, sortent des bateaux hérissés de lances comme des oursins. Des bateaux qu'elles envoient dans le brouillard chez Missinger, l'ennemi, qui les voit arriver un matin. Peut-être cette armée répond à ses prières. Il monte sur le bateau, il fait demi-tour, il va dans le royaume de Freddy. Et sur les rives, il pille, il tue, jusqu'au royaume, jusqu'à la capitale de Freddy, jusque dans son château, où il combat lui-même Freddy. C'est Missinger, le vainqueur. Il veut voir son royaume, sa capitale. Il se fait conduire jusque dans les souterrains. Il voit les deux filles qui s'acharnent sur les deux pierres. Il voit les flammes qui sortent des meules et peut-être à ce moment comprend-il d'où lui est venu le cadeau. Il lève la main, qu'elles s'arrêtent. Enfin, elles peuvent se reposer. Et elles regardent ce protecteur généreux qui leur permet un peu de repos. Missinger se fait expliquer comment marche et pourquoi le moulin, quelles sont ses qualités. Et dans la nuit, quand il reprend son vaisseau, il fait rouler les meules jusque sur le bateau. Dans la nuit, Il songe à son île. Il songe que c'est l'été, le moment où on fait les provisions, où il y a le poisson qu'on garde, le gibier, il faut le saler pour le garder. En pleine nuit, il ordonne qu'elle fasse tourner les meules. Et elle, reconnaissante, pensant qu'elles se reposeront après, de bon cœur, elle tourne le moulin, elle chante. Il va moudre le sel, il en remplit les cales. Et quand c'est plein, elle se tourne vers Missinger. Les cales sont pleines. Peuvent-elles s'arrêter ? Non, répond Missinger. Du sel, il en faut. Elles n'ont jamais voulu voir pourrir le poisson ou pourrir la viande. Il en faut, il n'y en aura jamais assez. Ah, il veut du sel. Il en aura. Et elle tourne les meules. Et elle chante et elle se donne de la force. Et le sel, il y en a partout. Il submerge les cales, il submerge le pont, il submerge le bateau. Et le bateau s'enfonce dans un grand tourbillon. Missinger dort sur le sable, une couronne d'algues sur la tête. Et les filles, personne ne leur a dit de s'arrêter. Alors elles continuent à moudre dans les vagues. Et elles continuent à saler les océans.